France Culture.
Les midis, c'est gratuit et on voyage loin. À 13h, le chef d'orchestre Raphaël Pichon sera mon invité. Mais tout de suite, on retrouve Marie Sorbier pour le Point Culture.
Oui, et on va continuer à voyager, hein, Marie, parce que la 23e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes se tient jusqu'au dimanche 28 septembre à Charleville-Mézières. Depuis 64 ans, c'est un événement unique. Tous les deux ans, plus de 90 spectacles du monde entier nous proposent le meilleur de l'art marionnettique et du théâtre d'objets. Et on ne le dira jamais assez, la marionnette est le secteur du spectacle vivant où la création est la plus enthousiasmante. Le public, lui, ne s'y trompe pas et se presse du matin au soir dans toutes les représentations. Alors j'étais à Charleville ce week-end et je suis allée découvrir, entre autres, la dernière création de Renaud Herbin, Birja. C'est une légende populaire qui voit des moutons mourir et vivre à nouveau, un conte au plus près des préoccupations environnementales et qui offre des hallucinations visuelles aux spectateurs. Reportage. Renaud Herbin, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder cette interview. Vous sortez juste de scène pour cette création qu'on vient de voir ici au Festival mondial de Charleville-Mézières qui s'appelle Birja. Je voulais vous interroger notamment sur ce rapport entre le corps et l'objet, la marionnette et le marionnettiste. J'ai vu plusieurs de vos spectacles. Moi, il y a quelque chose qui me frappe toujours, c'est à quel point vos marionnettes font corps avec le marionnettiste. Là, il y a un exosquelette, je ne sais pas comment vous l'appelez d'ailleurs, une marionnette qui se pose comme ça sur le corps de la marionnettiste. Comment vous travaillez ce lien entre l'objet et le corps ?
Alors, c'est effectivement, on peut remonter à l'histoire de la marionnette où on est sorti de nos castelets il y a quelques années maintenant, dans les années 70, et en sortant des castelets, on s'est donné à voir, on a donné à voir nos corps de marionnettistes, et je trouve qu'on doit continuer à interroger ce rapport, enfin, ce que raconte ce corps et cette relation entre le corps de la marionnette, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit manipulée par le dessous, par le dessus quand c'est des marionnettes à fil, et là, en l'occurrence, effectivement, c'est plus un corps à corps, et quelle que soit la forme, la relation est en jeu et je trouve que là on peut vraiment pleinement jouir de cette présence qui est étrange, qui vient doubler le corps, qui vient le superposer, lui permettre de changer d'échelle, voilà, toutes sortes de choses que permet la marionnette.
En tant que spectateur, on se pose toujours la question de quoi regarder. Est-ce qu'on regarde la marionnette ? Est-ce qu'on regarde le visage du manipulateur ? Est-ce que, en tant que metteur en scène, ce sont des questions que vous vous posez ?
Bien sûr. Ben, si on le donne à voir, ça fait partie de ce qu'on écrit. Donc, c'est aussi la force de ce type d'écriture qui permet, pour moi, de jouer sur aussi les lisières, les zones d'ombre, des choses qui pourraient paraître lointaines ou parfois cachées, mais qui se révèlent progressivement. Et effectivement, l'ombre d'un manipulateur peut devenir tout à fait inquiétante et intéressante.
Vous avez été longtemps directeur de théâtre. Vous êtes un des représentants de la scène de la marionnette en France. Qu'est-ce que vous pourriez dire de l'état de la marionnette aujourd'hui ? Est-ce que c'est un secteur comme le spectacle vivant qui souffre aussi ?
Alors oui, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont très fragilisées par le contexte politique et économique que l'on subit tous et toutes. Après, je pense que la marionnette est à un point, enfin continue à être un point, parce que c'est un processus lent et progressif, et j'y crois beaucoup, j'espère y contribuer à affirmer des gestes artistiques sur des grands plateaux qui sont tout à fait dignes des grands festivals de théâtre ou des scènes nationales ou des centres dramatiques nationaux. Enfin voilà, on s'inscrit dans le réseau du spectacle vivant au même titre que une pièce avec que des acteurs ou des danseurs, etc.
Mais vous avez l'impression que justement ce réseau de scène nationale ou de CDN invite des spectacles de marionnettes dans leur programmation ?
De plus en plus, c'est, on peut s'en réjouir. Et puis les marionnettistes ont aussi cette facilité à s'infiltrer. Donc on arrive en douce, on fait toutes sortes de choses. Dans Birja par exemple, il me semble que je travaille autant l'acteur, l'actrice en l'occurrence, le travail sur le texte, l'interprétation, les émotions, que cette relation à la matière, que la relation au son et à la musique. Donc voilà, pour moi, on décloisonne et il faut continuer à défaire ces silos qui nous ont quand même très formatés et qu'il faut, enfin pour moi en tout cas il n'y a pas de il faut, et c'est chacune fait ce qu'il veut avec tout ça, donc comment tricoter avec tous ces éléments Pourquoi ? Ben, pour s'adresser à un public et pour créer, en tout cas, ce qui moi m'intéresse, créer une émotion forte, une expérience.
Il y a un autre sujet qui secoue aujourd'hui le spectacle vivant, c'est toutes les problématiques autour du réchauffement climatique, comment le spectacle vivant peut prendre sa part. Je trouve que la marionnette a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, vous en avez beaucoup parlé, d'ailleurs ce spectacle-là est aussi une évocation de ces sujets-là. Comment aujourd'hui la marionnette a des choses à dire justement sur ce qui pourrait être un cercle vertueux dans le spectacle vivant ?
Bah, la marionnette a ceci d'intéressant qu'elle décentre de fait l'humain, c'est-à-dire que l'humain n'est pas au centre forcément, enfin il peut l'être, mais en tout cas on peut jouer à le décentrer, et à l'image, voilà, c'est presque une métaphore de ce qui est en cours là, de notre prise de conscience collective, de se dire qu'on n'est pas en toute puissance, on n'est pas forcément les maîtres du monde et prêt à modifier tous les écosystèmes, on fait partie, voilà, on n'est pas en dehors, on est dedans, et dans ce jeu de relations que l'on tisse sur un plateau, et ben comment on peut aussi l'air de rien, j'ai envie de dire, parce que c'est pas pour moi un message, j'ai pas des pancartes sur le plateau, mais pour moi l'intention politique, presque, oui, quasiment politique, de venir créer du flou, créer des arrière-plans et des, enfin voilà, de donner à sentir qu'on fait tous partie de cette même matière, cette même air que l'on respire ensemble.
Dernière question sur ce festival que vous connaissez bien, qui est associé notamment à l'école, que vous connaissez bien aussi. Est-ce que vous pourriez nous redire à quel point le Festival mondial de marionnettes de Charleville-Mézières est important dans l'écosystème de la marionnette et pas seulement en France ?
Ben oui, c'est un festival absolument unique dans le monde. D'abord, il s'appelle Festival Mondial et ça peut faire sourire, mais c'est une réalité et ça draine comme ça toute la profession de tous les continents et ça, c'est quand même assez incroyable.
On entend parler toutes les langues, hein, dans les rues de Charleville-Mézières.
Oui, c'est fabuleux et c'est vraiment une fête pour la marionnette à l'échelle planétaire, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi un moment particulier pour l'Institut, enfin ce qui était l'Institut de la marionnette et le festival. Voilà, ce sont des longues histoires qui continue à s'écrire là avec cette fusion qui a eu lieu cette année et qui est une excellente chose qui permet vraiment aussi de faire le pont entre la formation continue jusqu'au public, jusqu'à la programmation, jusqu'à la production aussi. Et donc là, on a vraiment un pôle international qui est absolument unique et indispensable pour faire progresser, continuer à faire progresser la profession.
Et on peut découvrir pendant ce festival plein d'anciens élèves.
Bah oui, mais on commence à devenir nombreux. Voilà, je crois qu'on est à la 14e ou 15e promotion. Voilà, on est... Donc la roue tourne et c'est très bien. C'est très bien qu'il y ait aussi de la relève et qu'il y ait aussi plein de choses qui s'inventent sur les plateaux.
Birgin, on va pouvoir le voir ailleurs qu'à Charleville-Mézières ?
Oui, alors cette saison, il passe à Brest, qui est où je suis artiste associé au Quartz, donc en février. Et puis au théâtre CDN de Dijon, au mois de mars.
Merci beaucoup, Renaud-Herbert.
Merci.
Et pour poursuivre l'exploration, je voulais signaler la sortie aux éditions Actes Sud d'un essai, L'art du marionnettiste, pratique et transmission, signé par Laurette Burgholzer et Lucie Doublé. Les autrices dédicaceront leur livre tout à l'heure à 15h, place du Cal, à Charleville-Mézières.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, on vient d'apprendre le nom du lauréat du prix du roman FNAC.
Oui, et c'est l'écrivain irlandais John Boyne qui remporte la 24e édition du prix pour son roman Les éléments, paru chez J.C. Lattès. Dans ce livre, l'auteur suit les destins entrelacés de quatre personnages issus d'une même famille, d'une chirurgienne hantée par des traumatismes à un joueur footballeur prometteur. Chacun de ces récits est relié par l'un des quatre éléments. John Boyne succède ainsi à Marie Vintras, qui avait été primée en 2024 pour Les âmes féroces aux éditions de l'Olivier. Le jury du prix du roman FNAC créé en 2002 se compose de 400 libraires FNAC et de 400 lecteurs adhérents. Et vous pourrez entendre le lauréat John Boyne, parce qu'il sera mon invité, dans le Point Culture de mercredi.
Et pour finir, Marie, un autre prix sera remis ce lundi, mais dans une toute autre discipline.
Oui, puisqu'on connaîtra ce soir le nom du gagnant du célèbre Ballon d'Or. Alors, quel rapport avec la culture, me direz-vous, Marie ?
Tout à fait.
Eh bien, si la renommée de ce prix, qui récompense chaque année le meilleur footballeur du monde, n'est plus à faire, on connaît moins la maison qui confectionne le trophée. Or, c'est le plus vieux joaillier français, la maison Mellerio, fondée au début du XVIIe siècle, qui réalise depuis 1956 le célèbre Ballon d'Or. 5 métiers sont nécessaires à son exécution. Un tourneur qui va découpler les plaques de laiton, un ciseleur qui va dessiner les coutures du ballon, un polisseur qui va faire briller le trophée, un graveur pour inscrire le nom du gagnant et un orfèvre pour l'assemblage final sur son socle en pyrite. Alors, réalisé en laiton et plaqué en or, le design du trophée n'a été modifié qu'une seule fois, en 1983, l'année du sacre de Michel Platini, comme vous le savez bien sûr, pour être mis à la taille d'un vrai ballon de foot. Et même si la maison Mellerio connaît déjà l'identité du vainqueur, qu'elle grave hein, donc avant la cérémonie, bah oui. Il faudra nous patienter jusqu'à 19h30 pour que le nom du gagnant 2025 soit dévoilé au public.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.